France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La Turquie n'a pas franchi de ligne rouge contre les Kurdes, selon le président américain. Un peu plus de 24 heures après le début de l'offensive au nord-est de la Syrie, Donald Trump n'évoque plus de sanctions à l'encontre d'Ankara, mais il se pose en médiateur. La diplomatie américaine est chargée d'arranger un cessez-le-feu entre les Turcs et les Kurdes. Hier, l'ONU exprimait sa profonde inquiétude et le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, réclamait lui une réunion d'urgence de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Deux hommes arrêtés à l'aéroport de Washington hier alors qu'ils partaient pour un aller simple vers une destination étrangère. Il s'agit de deux hommes d'affaires proches de l'avocat de Donald Trump. Hier, les démocrates ont exigé leur coopération car ils sont soupçonnés d'avoir servi d'émissaire à l'avocat personnel de Trump dans ses efforts pour obtenir de l'Ukraine des informations sur Joe Biden, qui est, je vous le rappelle, le rival démocrate du président Trump. Le directeur général de Renault, Thierry Bolloré, dénonce un coup de force inquiétant alors que le constructeur automobile français s'apprête à le remplacer. Thierry Bolloré s'exprime dans les colonnes des Échos ce matin. Il évoque une éviction brutale et inattendue. C'était un proche de Carlos Ghosn. Mais le numéro 1 de Renault, Dominique Senard, parle surtout de résultats décevants. Elle avait été choisie par Emmanuel Macron, mais elle voit sa candidature rejetée par le Parlement européen. Sylvie Goulard ne sera finalement pas commissaire au marché intérieur. Au total, 82 élus ont voté contre sa nomination hier. C'est un désaveu pour le président français. L'ancienne ministre est sous le coup de deux enquêtes pour des soupçons d'emploi fictif présumés pour son parti, le Modem. Et puis notez ce non-lieu requis hier à la cour d'appel de Toulouse pour le gendarme qui avait lancé une grenade provoquant la mort de Rémi Fraisse en 2014. Les faits s'étaient produits à Sivens, dans le Tarn, sur une ZAD, une zone à défendre, érigée contre la construction d'un barrage. Cette demande de non-lieu est conforme aux réquisitions du parquet de Toulouse. Le délibéré sera rendu le 9 janvier prochain.
Hashtag quand le témoignage prend la parole.
Toutes les semaines, réagissez sur les réseaux sociaux, sur ce qui change votre vie. Renoncer à l'avion pour la planète, sauvegarder le patrimoine, vivre le handicap au quotidien, témoigner et compléter des interviews engagées.
Hashtag, c'est dès lundi sur les réseaux sociaux, le vendredi dans les matins de France Culture à 7h24 et sur franceculture.fr.
Viva l'Orchestra. Participez à l'orchestre et au cœur des grands amateurs de Radio France. Pour la première fois, Viva l'Orchestra ouvre ses portes aux chanteurs comme aux instrumentistes pour tous de 7 à 97 ans. Avec l'Orchestre National de France et le cœur de Radio France, préparez-vous à jouer et à chanter sur la scène de l'Auditorium de Radio France. Inscrivez-vous entre le 2 septembre et le 13 octobre sur maisondelaradio.fr. Viva l'Orchestra!
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les jours en direct à la radio tout le matin ou en podcast quand vous voulez. Et tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, je reçois Nicolas de Crécy qui publie chez Gallimard BD le premier volet d'un diptyque où il raconte son premier grand voyage. Et ça, c'était en 1986 dans une vieille bagnole retapée à la va-vite et en compagnie de son cousin. C'était l'été de ses 20 ans, c'était aussi l'année de Tchernobyl. De Paris à Istanbul, en passant par l'Europe de l'Est, c'est un road trip en BD doublé d'une réflexion sensible sur la mémoire, sur nos souvenirs, qui nous jouent parfois de drôles de tours. Et le titre de l'album, édité je le rappelle chez Gallimard, c'est Visa Transit. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner au podcast du Réveil Culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Bouchard, avec à la prise de son ce matin, Éric Boissé.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Nicolas de Crécy.
Bonjour.
Vous êtes un grand voyageur, ça on le sait. Ces dernières années, on s'est vu notamment pour parler du Japon et du Mexique et des livres que vous avez consacrés à ces deux pays visités. Mais dans votre dernière bande dessinée qui vient de paraître chez Gallimard BD, Visa Transit donc, c'est le premier volume d'un diptyque annoncé où vous racontez votre premier grand voyage. C'était donc, je le rappelle, l'été de vos 20 ans. On est en 1986 et vous allez découvrir un autre monde, celui d'une Europe de l'Est, encore aussi mystérieuse que les voix bulgares qu'on écoutait en boucle à l'époque.
Effectivement, avec mon cousin, en fait, c'était le premier grand voyage mécanique parce qu'on prenait, on s'est débrouillé pour trouver une vieille voiture qui était en l'occurrence une Visa Club, qui est l'équivalent d'une deux chevaux, en fait. C'est vraiment une voiture
promise à la casse et que vous avez récupérée.
Voilà, qu'on a récupérée alors qu'elle devait effectivement aller à la casse. Donc, on est parti avec ça en se disant on va le plus loin possible, on va vers l'Est, mais on va le plus loin possible. Donc, on n'avait pas de but, en fait. C'était complètement spontané comme voyage. On s'est dit, on verra bien, aussi bien on s'arrêtera en Italie. Il était fort possible que le voyage s'arrête là. Donc, on a continué jusqu'à ce que la voiture passe l'arme à gauche, ce qui n'a jamais été le cas, en fait, puisqu'elle a duré... Enfin, là, je fais un peu de publicité pour la Citroën de l'époque, mais... Mais effectivement, on a cru qu'elle allait littéralement exploser, ce qui n'a pas été le cas. Et finalement, on est arrivé jusqu'au sud de la Turquie, à Antalya. Et après, il nous est arrivé d'autres aventures par rapport à cette voiture, que je développerai ensuite dans le tome 2. Mais parce que là, pour l'instant, on s'arrête à peu près en Anatolie. Le premier volume nous arrête à peu près en Anatolie. Et donc, encore une fois, de la même manière que je fais mes livres, je voyage, c'est-à-dire c'est jamais prévu, rien n'est préparé, et mon cousin était un peu dans la même optique, donc on partait comme ça, voilà.
Mais pourquoi ce go est plutôt que go west? Il y avait l'attraction de l'Europe de l'Est à l'époque?
Oui, absolument.
Parce qu'en 86, personne ne pouvait se douter que le mur de Berlin allait bientôt s'effondrer.
Non, c'est vrai que c'était inimaginable, et en fait il y avait un mystère, c'est vrai qu'il y avait ce mystère qui était à nos portes, qui était pas très loin, et c'était quand même intéressant pour nous, à 20 ans, d'aller regarder d'un peu plus près, d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Donc ça nous attirait beaucoup, puis il y avait une iconographie, il y avait un mystère, il y avait beaucoup de choses qui étaient entretenues. On était en fin de guerre froide, donc c'était quand même
Et puis l'envie de ne pas faire comme les autres, je suppose, Nicolas de Crécy, quand vous avez 20 ans, vous voulez pas aller à Londres ou aux États-Unis comme tous les jeunes de cette époque-là, je suppose, parce que là
ça m'a jamais attiré, les pays anglophones m'ont jamais spécialement attiré. Et oui, j'étais plus attiré par cette culture, mais par ce mystère. Effectivement, c'était un peu plus compliqué d'aller de ce côté-là de l'Europe, enfin de ce côté-là du monde. Donc, c'était intéressant quand même d'aller voir. Alors après, quand je dis c'était spontané, ça l'était pas tant que ça, parce qu'il a quand même fallu préparer les visas pour passer en Bulgarie et en Yougoslavie. Mais c'était à l'époque ce qu'on appelait des visas transit, c'est-à-dire que on avait le droit de rester uniquement 24 heures dans ces pays-là. On pouvait pas rester plus. D'où le titre de l'album et le jeu de mots avec la Visa, la Citroën Visa.
Et puis surtout, il y avait des postes de frontières, y compris avec l'Italie.
Oui, ce qui nous paraît presque étrange aujourd'hui, mais effectivement, et puis il fallait changer les lires. Et les lires, on en avait 500 000 pour 10 francs, on avait 500 000 lires. Enfin bon, j'exagère un peu, mais il y avait tout de suite une sorte de, je dirais pas un exotisme, mais on passait des frontières. Aujourd'hui, on les passe à l'aéroport. Donc on n'a plus tout ce qu'il y a autour de la frontière et qui était déjà en soi... Il y avait une espèce d'altérité visible et qui était beaucoup plus marquée qu'elle ne l'est aujourd'hui, effectivement, où on peut passer, où on trouve plus ou moins tous les mêmes magasins et les mêmes éléments partout en Europe. Mais c'est vrai qu'il y avait une spécificité tout de suite de chaque pays qui était, en tout cas pour un dessinateur, qui était très intéressante parce que ça aiguisait le regard. Enfin, c'était un truc passionnant à regarder et après coup à dessiner.
Pourquoi raconter ce voyage plus de 30 ans après, Nicolas de Crécy? Est-ce que pour vous, ça a été un voyage fondateur? Vous racontez cette histoire comme un voyage initiatique, on va en parler, mais est-ce que c'était si important pour vous? Pourquoi le raconter aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à...
En fait, c'est comme à chacun de mes livres, j'essaye de faire quelque chose qui soit différent du précédent. Ça, pour moi, c'est un protocole obligatoire.
Et là, c'est le road trip que vous vouliez tester?
Non, c'était vraiment faire quelque chose que j'avais jamais fait, c'est-à-dire dessiner le réel. Et parce que j'ai beaucoup de mal à le faire. Pour moi, c'est pas intéressant. Pour moi, le dessin, c'est plutôt là pour décrire un monde imaginaire. Pour le réel, on a le cinéma, on a la photographie, on a plein de choses qui peuvent refléter le réel d'une manière peut-être plus directe. Et le dessin, pour moi, offre cette possibilité d'aller beaucoup plus loin que la représentation du réel. parce qu'on peut, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Et tous mes albums précédents étaient plutôt dans cette direction-là. Des personnages invraisemblables, des villes impossibles, bon, des architectures, plein de choses différentes comme ça. Et là, je me suis dit, j'ai jamais dessiné ça. Est-ce que je vais pouvoir y arriver, en fait? C'est une sorte de pari. C'est-à-dire de me dire, est-ce que je vais trouver les biais graphiques suffisamment intéressants pour pouvoir traduire une réalité? Mais la réalité, je voulais pas qu'elle soit trop proche. Et parce qu'il me faut toujours une distance. Quand je m'exprime, il me faut une distance. Et là, pour moi, ce qui était important, c'est, enfin, pour trouver cette distance, c'était la distance du temps.
Et donc, revenir à l'année 1986 et l'été de vos 20 ans.
Voilà. Et donc, essayer de faire cet exercice qui est quand même assez compliqué, de retrouver les images. Alors, les images étaient dans ma tête, mais d'arriver à les faire passer par le papier et à les retranscrire le plus fidèlement possible, sans tricher. Et effectivement, le récit que je raconte est vrai. Enfin, ce qui se passe est vrai. Il n'y a rien qui est romancé. C'est juste réarticulé pour que la narration soit fluide. Il y a des éléments que j'ai mis avant d'autres pour avoir vraiment que la lecture soit facile et qu'on se pose pas de questions. Parce que la mise en scène, c'est vraiment... après, c'est un autre problème.
De mettre en scène qui la emprunte, réalité. Comme souvent chez vous d'ailleurs, Nicolas de Crécy, au cinéma. On a des flashbacks, on a des gros plans...
Oui, en fait, on a tout un. Il y a trois, voire même quatre temporalités différentes dans cet album, parce que quand je l'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il y avait un écueil qu'il fallait absolument que j'évite. C'était le raconter ses vacances, voilà, comme d'aller chez quelqu'un qui vous montre ses photos de vacances et au bout de cinq minutes, on n'en peut plus. Donc, j'avais peur d'aller dans cette direction. Et d'ailleurs, les premières planches que j'ai faites étaient un peu manquaient un peu de relief, parce que je racontais. Sur un seul niveau, ce qui nous était arrivé, et il manquait des temporalités. Donc j'ai amené un discours d'aujourd'hui, donc moi je m'exprime, le discours de l'époque que j'ai mélangé, et avec aussi une plongée dans les années 70, c'est-à-dire que je reviens aussi un petit peu dans mon enfance. Et il y a encore une temporalité différente qui est un peu de l'ordre du fantastique, c'est-à-dire que j'amène un personnage particulier qui est le personnage d'Henri Michaud, que j'admirais beaucoup à l'époque, et je le fais intervenir en fait. Il y a un dialogue qui se crée entre nous au sein de cet album pour justement amener encore une dimension différente.
Oui, et cette dimension peut être très drôle parce que c'est assez drôle. On va y revenir sur ce livre d'Henri Michaud, Ailleurs, qui vous a tant marqué quand vous aviez 20 ans. Mais si cette bande dessinée, Visa Transit, est une des meilleures bandes dessinées sorties cette année, c'est parce que vous réussissez effectivement à raconter une histoire. On est dans le road trip. Un des deux protagonistes, bah c'est vous-même, vous, jeune, à 20 ans, avec votre cousin. Et puis d'une manière très subtile, ce narrateur va devenir, parce que vous prenez à un certain moment le recul, vous vous posez la question, est-ce que je restitue très bien tout ce que j'ai vécu à cette époque-là? Et ces questionnements, vous les partagez sans que cela n'alterne avec l'histoire du road trip.
Oui, c'était toute la difficulté, en fait, d'avoir ces dimensions différentes et de faire en sorte que tout ça reste très fluide et qu'on soit, en premier lieu, dans une première lecture de voyage, en fait. Mon idée, c'était d'inviter le lecteur potentiel à vivre à ma place, pratiquement. C'est ça, c'est-à-dire, je le remets dans ma tête il y a 33 ans, déjà, en essayant de faire en sorte que ce soit pratiquement réaliste, c'est-à-dire qu'on voyage ensemble. Et pour moi, c'était un super exercice de se dire, comment est-ce que je vais cette réalité de l'époque, est-ce qu'elle va être crédible? Est-ce que en lisant, on va y croire? Parce qu'en fait, j'avais assez peu de documents de ce voyage. On prenait pas de photos, en fait.
Si, quand même un peu dans l'histoire. On vous voit prendre quelques photos.
Une douzaine.
Photos. Ouais.
Une douzaine de photos. Une quinzaine, je vais dire. Et en tout cas, celles que j'ai retrouvées, parce que j'ai, enfin, que mon cousin a retrouvées, parce que moi, j'avais pas de photos. En fait, j'ai commencé l'album tel que, en faisant confiance à ma mémoire, et ensuite. J'ai appelé mon cousin en lui demandant « Est-ce qu'il te reste des photos de ce voyage ?» Effectivement, il en avait quelques-unes qu'il m'a envoyées. Et là, je me suis aperçu que c'était très fidèle. Ce que j'avais dessiné était très fidèle. C'était assez juste par rapport aux photographies en question. Et c'est là que j'ai repris l'album parce qu'en fait, je l'avais un peu laissé, j'avais un peu laissé le livre en plan. Sans doute à cause d'un manque de confiance par rapport à l'intérêt même du livre. Et le fait de revoir ces photos a réveillé mon intérêt pour ce projet, en fait. Je me suis dit, si j'ai quand même réussi à cerner à peu près la réalité telle qu'elle était, à la retranscrire d'une manière à peu près fidèle, donc c'est intéressant, au pur niveau graphique. Hein. Donc je vais continuer. Je vais essayer de.
Mais comment vous avez joué sur cette voix du narrateur qui est tout à la fois la voix d'un personnage de ce voyage, votre voix de jeunesse, puisque c'est vous en tant que personnage quand vous aviez 20 ans avec votre cousin. Comment elle se transforme à un certain moment en une autre voix, la voix de l'auteur. C'est l'auteur qui s'exprime directement, qui doute de ses souvenirs.
Oui, alors on me voit pas aujourd'hui en fait. C'est vrai qu'on entend, c'est un dialogue, c'est une voix off qui est la mienne, au-dessus d'un voyage qui se passe en 1986.
Avec la fondue enchaînée, avec la voix off du personnage qui à l'âge de 20 ans.
Voilà. Donc c'est quand même une tricherie parce que les pensées que j'avais à l'époque, je les ai reconstituées par rapport à des souvenirs qui sont toujours un peu. On imagine qu'à l'époque, enfin moi j'imaginais à l'époque penser telle ou telle chose, alors que évidemment ça a été certainement distordu par le temps et que c'est mon opinion d'aujourd'hui que je transforme un peu pour créer un dialogue entre entre ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais à l'époque. C'est un jeu qui était, enfin pour moi c'était juste, c'est vraiment du jeu, c'est de l'ordre du ludique en fait, c'est amusant.
En 1986, Desireless chantait Voyage, Voyage. Nicolas de Crécy écoutait plutôt le mystère des voix bulgares. Ça vieillit plutôt bien, mais peut-être que c'est un peu plus récent. Mais déjà en 86, on parlait de ce groupe. On écoutait cette musique. Et en 86, à l'âge de 20 ans, avec votre cousin Guy, Nicolas de Crécy, vous décidez de faire un voyage en prenant une vieille voiture, une vieille Citroën Visa, et pour traverser la Bulgarie, la Yougoslavie, parce qu'à l'époque, ce pays existe encore en tant que tel, avec pour but de rejoindre Istanbul. Le premier tome de ce voyage que vous racontez avec plus de 30 ans de recul vient de paraître chez Gallimard Bande Dessinée, avec pour titre Visa Transit. Il y a quelque chose de tout à fait incroyable, c'est-à-dire la culture que vous aviez à l'époque. Alors, on a parlé de Tchernobyl, hein, donc ça c'était très important, hein, puisque c'est assez présent dans cette aventure, mais il y avait surtout cette envie de livres. Les livres l'emportent d'ailleurs sur la musique et le cinéma dans votre jeunesse, puisque même quand vous décidez de faire ce voyage, vous allez embarquer avec vous plein de livres que vous ne lirez jamais, bien entendu, parce que vous n'avez pas le temps de lire quoi que ce soit durant ce périple.
Oui, en fait, les livres, c'était plutôt... en fait, on était des gros bébés encore à 20 ans, donc on avait pris notre petite voiture et puis on l'avait aménagée on avait mis des petits rideaux, on avait mis des livres, une espèce de bibliothèque, mais c'était plus de l'ordre, effectivement, de la dinette ou comme des bébés. Malgré ça, effectivement, j'avais quand même des lectures, moi, à l'époque, qui m'intéressaient beaucoup, qui étaient Henri Michaux.
Très, très présent. Ah, il est tellement présent que vous le ressuscitez dans cette aventure.
Oui, je le ressuscite, oui, il méritait bien d'être ressuscité. Donc il y avait une espèce de triptyque des poètes que j'aimais bien, c'était Max Jacob, Henri Michaux et Benjamin Perret. Et bon, ils étaient plutôt on pourrait les qualifier de surréalistes, plus ou moins, mais... En fait, ils m'intéressaient parce que justement, ils avaient une façon de voir la réalité. Enfin, il y avait un décalage par rapport à la réalité que je trouvais vraiment passionnant. Et notamment Henri Michaud, qui donc dans le voyage en Grande Garabagne ou dans Ailleurs, en fait, c'est comme un espèce d'ethnologue de l'imaginaire. Il parle d'espèces de peuplades lointaines extrêmement étranges avec des mœurs très très particulières. Et ça, je trouvais ça tellement mystérieux. Enfin, il y avait vraiment des choses qui m'intéressaient. Et le fait d'entreprendre ce voyage, à l'époque, je me disais, je vais peut-être trouver ce genre de choses en passant en Yougoslavie ou en Bulgarie, dans ces pays lointains, complètement fermés. Peut-être que je vais retrouver tous ces mystères que je pouvais lire, effectivement, dans les œuvres de Michaud. Et alors, évidemment, ça n'avait rien à voir, mais je trouvais intéressant de mettre en parallèle cette lecture de l'époque avec ce voyage.
Cette lecture de l'époque, hein, parce que c'est vraiment... Ce sont vos 20 ans, Nicolas de Crécy. Vous dites qu'aujourd'hui, vous ne lisez plus Henri Michaud, et que ça fait longtemps que vous l'avez laissé tomber.
Oui, je lis moins. Enfin, le fait de l'avoir lu à l'époque, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé à l'époque. Et puis après, on passe à d'autres lectures, évidemment. Et puis, pour moi, c'était quand même important de faire comme ça une sorte d'hommage à des auteurs que j'aimais à l'époque. Alors, ce qui m'a intéressé dans Henri Michaud, et que je développerai peut-être plus sur le tome 2, c'est qu'il a deux casquettes, en fait. C'était quelqu'un qui écrivait et quelqu'un qui dessinait. Donc, il y a une première partie, là, où, effectivement, il y a un dialogue par rapport à l'écriture. Et ensuite, dans le tome 2, il y aura un dialogue par rapport au dessin. C'est-à-dire que lui va me dire, t'es bien gentil avec tous tes trucs réalistes, mais tu te fatigues pour rien. Regarde, moi, les dessins que je fais, ils sont beaucoup plus évocateurs, ils sont beaucoup plus simples, ça va beaucoup plus vite. Là, c'est un peu de l'ordre de la plaisanterie, mais c'est vrai qu'il y aura un dialogue comme ça entre ces deux manières de s'exprimer, qui sont l'écriture et le dessin, qui sont deux choses très importantes pour moi, justement que la bande dessinée permet d'exploiter en même temps l'écriture et le dessin. Ça, c'est quelque chose que... C'est toute la qualité de la bande dessinée, à mon avis. Et donc, ce dialogue avec Henri Michaud me permet, en sous-texte, de parler un petit peu de ça aussi.
Et enfin, vous êtes dessiné. On vous voit, on vous reconnaît, Nicolas de Crécy. D'ailleurs, on peut dire que vous n'avez pas beaucoup changé. Vous aviez un peu plus de cheveux à l'époque, mais vous n'avez pas beaucoup, beaucoup changé. Vous avez travaillé à partir de quelques photos que vous aviez de l'époque, de vous et de votre cousin, d'ailleurs.
Non, j'avais pas trop de photos. Et en fait, pour moi, me dessiner... Et dessiner mon cousin, ça a été tout le long de l'album, ça a été vraiment une souffrance. C'est très très délicat de se dessiner, de se figurer soi-même, c'est une torture. Moi, je déteste ça. C'est pas mon truc. Se représenter soi-même, je trouve ça presque indécent. Enfin, bon, ça c'est un autre problème. Mais surtout, si on regarde l'album, on s'aperçoit que dans aucune case, je n'ai la même tête et mon cousin non plus. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à me dessiner, j'ai pas réussi à le dessiner tout le long du livre.
Si, quand même.
Donc, on reconnaît parce que les habits sont les mêmes, les coupes de cheveux à peu près. Mais sinon, c'est vrai qu'j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, il y a eu la difficulté de traduire le réel des paysages d'il y a 30 ans, mais il y a aussi eu la difficulté de traduire ce que j'étais physiquement. À cette époque-là, c'est un truc un peu compliqué. Mais surtout que mon dessin est un peu réaliste. Quand on a un dessin plus stylisé, on peut faire une sorte de logo. Par exemple, dans les livres de Guy Delisle, où il se met en scène, il se dessine, c'est presque un logo, en fait. Il a un dessin très synthétique, et on le reconnaît tout de suite, et il n'y a pas de problème. Alors que moi, je suis allé dans une direction plus réaliste, finalement, qui est un peu plus compliqué à mettre en scène.
Vous partez des crayonnés d'une manière très classique, Nicolas de Crécy, avant d'arriver à la couleur.
Oui, là j'ai été vraiment très classique, c'est-à-dire crayonné, ancrage, mise en couleur à l'aquarelle. Et l'aquarelle pour moi c'était une évidence parce que j'ai hésité un moment à faire ce livre en noir et blanc, mais il m'a semblé que ça n'aurait pas eu la même force que en couleur. Du fait qu'on se trouvait en Turquie, enfin Bulgarie, Turquie, où il y avait une lumière très forte, où il y a beaucoup de paysages. Donc pour moi c'était important, j'avais mémorisé ça avec beaucoup de couleurs. Donc il y avait des ambiances, mais il y avait aussi des couleurs qui étaient très importantes dans ces ambiances. Donc pour moi c'était obligatoire de passer par l'aquarelle et de pas aller dans le sens d'une bande dessinée en noir et blanc, qui aurait été peut-être plus... qui m'aurait permis une pagination plus longue. Quand on travaille en noir et blanc, on travaille plus vite, donc on a la possibilité de faire plus de pages. Enfin bon, ça c'est purement technique, mais... Donc la couleur, pour moi, c'était vraiment, sur cet album, quelque chose qui était hyper important.
Alors, l'Europe en 1986, surtout l'Europe de l'Est, hein, c'est de Paris à l'Anatolie, en passant par la Yougoslavie et la Bulgarie et l'Italie, bien sûr, que vous représentez bien. Il y a ce côté road trip, il y a aussi votre relation avec votre cousin. Et là, c'est aussi le côté initiatique de l'album Visa Transit, Nicolas de Crécy, puisque vous, à 20 ans, vous avez l'air déjà très rationnel, alors que lui, il a la foi. Et c'est un des sujets aussi du livre, ou qui apparaît à la fin du livre, et on attend même la suite avec impatience.
Par rapport à mon cousin, je dis pas qu'il a la foi. En fait, à un moment où la visa, le moteur explose et fume, alors qu'on est en plein milieu de la Bulgarie sur la route transit sur laquelle il y a rien du tout, et il dit on est sous la protection de la Vierge, donc ne t'inquiète pas, la voiture va redémarrer. Et effectivement, elle a redémarré une heure après, et elle a jamais plus aucun problème. Donc il y a j'ai tout un questionnement par rapport à est-ce que c'était une plaisanterie, est-ce que ça l'était pas, et qu'est-ce que la foi, etc. Enfin bon, voilà. Après, il y a des digressions par rapport à ça qui sont assez amusantes et qui viennent et qui sont entraînées par cet accident mécanique. Ça me permet, moi, en fait, de revenir un peu plus en amont quand j'étais plus jeune, et par rapport à toute l'iconographie religieuse aussi qui est intéressante à développer par rapport à pourquoi on dessine. J'étais très intrigué par la statuaire, par ces petits personnages qu'on trouvait dans les églises et qui permettaient avec lesquels je m'imaginais plein d'histoires, mais qui n'avaient rien à voir avec du religieux, et qui m'ont poussé aussi dans cette voie artistique, c'est-à-dire de figurer le réel, la sculpture ou le dessin, ça permettait, c'était un vecteur pour l'imagination qui est extraordinaire. Alors ça peut être un vecteur religieux, mais dans mon cas, c'était pas. Ça se passait pas comme ça. Enfin bon, voilà, je parle de tous ces questionnements que j'arrive à intégrer au milieu de ce voyage en Turquie.
Vous racontez tout dans cette aventure Visa Transit, de ce voyage, je veux dire, ou parce qu'il s'agit aussi d'une aventure familiale. Enfin, c'est une balade aussi avec un cousin. Vous vous êtes posé aussi quelques limites, Nicolas de Crécy.
Ah oui, bien sûr. Non, je dis, je. En fait, le problème, c'est que par rapport quand on scénarise la réalité, on peut pas mettre tout ce qui s'est passé. Il faut trouver une architecture qui mette les moments les plus intéressants et d'arriver de faire en sorte à les mettre en relation pour que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que la réalité telle qu'on la vit, si je l'avais mise telle que, non seulement ça aurait fait 500 pages, mais en plus ça n'aurait
pas eu grand intérêt. Alors
ah ben, j'ai enlevé plein de choses dont je me souviens même pas, parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est quand même nos souvenirs communs. J'ai quand même, quand j'avais je me rappelais de quelque
avec
chose.
Avec votre cousin, donc.
Avec ma cousine, oui, je lui demandais de valider. Mais sans lui poser la question, en lui disant est-ce que ça s'est bien passé comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il me disait, telle chose, et je disais, ça correspond effectivement à mes souvenirs, donc je le valide et je peux le mettre dans l'album. Parce que pour moi, c'était important que ce soit juste, enfin que ce
et on retrouve la période, on retrouve l'époque, on est dedans, on est un peu surpris juste parce qu'il y a pas des histoires de filles, que quand on a 20 ans, il y a des histoires d'amour, mais il faut pas désespérer.
Ça ne figure pas.
il faut attendre le volume 2. Pourquoi ça ne figure pas? Parce que
c'était pas le propos. C'était pas le propos, et puis c'était pas le cas. Donc j'allais pas inventer des choses qui ne se sont pas déroulées. Et ce qui est amusant aussi dans ce livre, c'est de montrer que moi j'étais un peu, je suivais un peu mon cousin qui a un caractère très très fort, très très prononcé, qui était le premier à partir pour des aventures un peu improbables, et que moi je suivais parce que j'avais cette envie de suivre, de vivre des choses autres que celles que je pouvais vivre à ma table à dessin, parce qu'à l'époque je dessinais évidemment déjà, encore beaucoup, et que pour moi il était très important de quitter cette table à dessin pour voir le monde. Parce que sinon on n'a rien à dessiner, on n'a rien à voir. Donc c'est lui qui, on sent un peu dans le livre que c'est lui qui entraînait la roue du voyage.
Le réveil culturel de Toufi Kakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et on peut lire dès à présent le premier volume de ce diptyque de Nicolas de Crécy, Visa Transit. Ça sort donc cette semaine, édité par Gallimard Bande Dessinée. Merci beaucoup Nicolas de Crécy d'être passé. Merci pour votre fidélité.
Merci à vous.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture. L'esprit d'ouverture.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture. Sur franceculture.fr. Le dimanche à 12h45 sur France Culture, Signe des temps par Marc Bezman.
Les écrivains, les cinéastes, les metteurs en scène envisagent le monde autrement que le font les politiciens, les sociologues et les journalistes. Ils posent d'autres questions et quand ils posent les mêmes, ils les posent différemment.
Le 4 octobre, un singulier bouquet de tulipes a éclos près des Champs-Élysées. Monumentale sculpture offerte par le plasticien star Jeff Koons à Paris en hommage aux victimes des attentats de 2015. L'art peut-il être une réponse à la terreur ? Signe des temps avec Jeff Koons ce dimanche à 12h45 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Thierry Bolloré devrait être écarté aujourd'hui de la direction du groupe Renault. La faute à ses mauvais résultats ou à sa proximité avec Carlos Ghosn ? Nous poserons la question dans un instant. Nous irons ensuite à Bruxelles comprendre pourquoi la candidature de Sylvie Goulard a été écartée. L'ancienne ministre française ne sera pas commissaire au marché intérieur. Les eurodéputés revendiquent leur indépendance. Et puis la mission Miviludes, chargée de lutter contre les sectes, ne sera peut-être bientôt plus interministériel. Un souci d'économie, dit l'exécutif. Mais des élus et des associations militent pour la sauver. Vous l'entendrez dans ce journal. Près d'un an après le début du scandale Carlos Ghosn, la direction de Renault devrait connaître du changement ce matin. Le conseil d'administration se réunit sur fond de rumeurs de limogeage de Thierry Bolloré, le numéro 2 du groupe. Un groupe qui évoque de mauvais résultats et qui veut également tourner définitivement la page Carlos Ghosn. Thierry Bolloré, lui, s'exprime ce matin dans les colonnes des Échos. Il dénonce un coup de force inquiétant à Kim Kasmi.
Thierry Bolloré paye sa proximité avec son ancien mentor, Carlos Ghosn. Ces derniers mois, ses relations avec Jean-Dominique Sénard, le nouveau patron du groupe Renault Nissan, se sont littéralement dégradées. Ce dernier lui faisant de moins en moins confiance et n'hésitant pas à garder pour lui certaines informations stratégiques. Il est également reproché à Thierry Bolloré son management parfois brutal, mais aussi la fuite de certains grands cadres, très importants. En effet, 5 d'entre eux ont rejoint cette année le concurrent PSA. Un véritable affront quand on sait que Carlos Tabarès, patron de Peugeot Citroën, est un ancien transfuge de la marque aux losanges. Il est aussi reproché à Thierry Bolloré le fait d'avoir tendu les relations avec Nissan en n'acceptant pas de tourner la page en novembre lorsque l'affaire a éclaté. Quant à l'État français qui détient 15% du capital de Renault, il se refuse pour l'instant à 2 commentaires, même si hors micro, il ne cache pas sa volonté de voir partir Thierry Bolloré. Clairement, au vu des grandes manœuvres qui ont commencé au début de la semaine, avec le limogeage d'Hiroto Sekawa, l'ancien directeur général de Nissan à l'origine des révélations du scandale Carlos Ghosn, il y a désormais la volonté, pour l'Alliance, de tourner définitivement la page. Pour autant, les crispations entre la France et le Japon ne sont pas encore réglées, car si les têtes changent, les problèmes d'équilibre subsistent encore chez Nissan, qui ne supporte pas que Renault détienne encore 43% de son capital.
Elle est évincée avant même d'avoir pris ses fonctions. Sylvie Goulard ne prendra pas les rênes du commissariat européen au marché intérieur sur décision des eurodéputés. C'est un sérieux revers pour Emmanuel Macron qui l'avait désigné. Il va devoir trouver un autre nom à proposer à la commission. Sylvie Goulard est soupçonnée d'emploi fictif, je vous le rappelle. Et donc le Parlement, en rejetant sa candidature, a voulu prouver son indépendance, Angélique Bouin.
Un Parlement qui a été profondément renouvelé en mai dernier, 60% de nouveaux élus, des profils moins technocrates, des hommes et des femmes plus attachés aux questions d'éthique et de transparence, comme l'ont clairement montré les 2 auditions de Sylvie Goulard. Plus question non plus d'être une simple chambre d'enregistrement, les pressions subies pour sauver la candidate en ont agacé plus d'un. François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, estime même que cela a été contre-productif.
Beaucoup de parlementaires ont été l'objet de pressions fortes émanant de chefs d'État ou de chefs de gouvernement. Je crois que ça n'est pas une bonne manière de prendre au sérieux l'aspiration des citoyens en Europe à plus de démocratie et à plus de transparence. C'est aussi une manière de dire pour les années qui viendront que nous ne nous laisserons pas intimider, que nous ne nous laisserons pas impressionner, ni par les mauvais procès, ni par ces pressions politiques.
Y compris quand ces pressions émanent de leur propre chef de file, l'époque des consignes de vote respectées à la lettre est révolue, explique un parlementaire. Des présidents de groupes politiques qui se seraient ralliés finalement au gros de leurs troupes opposés à cette nomination sans trop d'état d'âme, certains dont le conservateur Manfred Weber n'ayant toujours pas digéré le rejet par Emmanuel Macron du système des Spitzenkandidaten, système qui lui assurait la présidence de la commission.
Un accord sera-t-il possible d'ici la fin du mois sur le Brexit? Le Premier ministre irlandais estime que oui. Il l'a dit hier après avoir rencontré son homologue Boris Johnson. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue, je vous le rappelle, le 31 octobre prochain. Ce matin, les deux négociateurs sur le Brexit, Michel Barnier et Stephen Barclay, vont petit déjeuner ensemble à Bruxelles pour évaluer les chances de déblocage des discussions à une semaine d'un Conseil européen crucial. Les forces turques progressent sur les territoires syriens tenus par les Kurdes. Ankara souhaite transférer sur ses terres plusieurs millions de Syriens réfugiés en Turquie. Mais les grandes puissances craignent que l'opération ne relance le conflit. Le ministre turc des Affaires étrangères précise que la Turquie n'a pas l'intention de s'enfoncer au-delà de 30 km dans le territoire syrien. Mais déjà plusieurs milliers de personnes fuient leurs habitations sur place. Ce matin, nous nous intéressons aux Kurdes syriens visés par cette offensive. C'est avec Omar Waman.
En instaurant une autonomie sur les territoires qu'ils contrôlent, les Kurdes ont été pendant longtemps les grands gagnants de la révolution de 2011. Laïcs, ils représentent près de 15% de la population syrienne. Fer de lance de la lutte contre Daesh, ils ont bâti une véritable armée, les YPG, les unités de protection du peuple, une milice au service du parti kurde syrien, proche du PKK d'obédience marxiste et considéré par la Turquie comme terroriste. C'est la colonne vertébrale des FDS, les forces démocratiques syriennes qui ont vaincu les djihadistes à Raqqa puis à Baghouz. Mais la création de cette région autonome du Rojava est à l'origine de tensions avec l'autre communauté du nord-est de la Syrie, les Arabes sunnites, hostiles aux Kurdes et accusés de complaisance à l'égard des djihadistes. Selon un rapport d'Amnesty International, ces dernières années, l'administration du Kurdistan syrien s'est rendue coupable à plusieurs reprises de déplacements forcés de la population et de destruction de villages entiers soupçonnés d'abriter des combattants du groupe État islamique.
Et j'ajoute, pour mettre fin à cette offensive, le président américain Donald Trump a évoqué hier une médiation américaine entre les Kurdes et la Turquie. La Miviludes va-t-elle disparaître le 1er janvier prochain? Il s'agit de cette mission interministérielle chargée de lutter contre les dérives sectaires. Hier, plusieurs associations et parlementaires se sont réunis à Paris pour lancer ce qu'ils appellent un acte de résistance. Ils refusent que cette mission soit rattachée au ministère de l'Intérieur exclusivement et non plus à Matignon, comme le souhaite l'exécutif. Jusque-là, cette mission avait fait ses preuves, Maïwenn Bordron.
Nicolas Jacquette a été sous l'emprise des témoins de Jéhovah. Il en est sorti il y a 15 ans et selon lui, c'est la Miviludes qui l'a sauvé.
Ce travail de synergie entre le gouvernement et les associations permet d'aider efficacement les victimes. Sans cette aide, je serais sans doute encore témoin de Jéhovah pendant quelques années et l'état dans lequel j'y étais ne pourrait sans doute pas assurer ma survie.
La Miviludes pourrait fusionner avec une autre entité du ministère de l'Intérieur, le CIPDR, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Sauf que la radicalisation est un sujet à part entière selon Georges Fenech, ancien député Les Républicains et ancien président de la Miviludes. Il dénonce aujourd'hui une faute politique du gouvernement.
Ça n'a pas de cohérence, alors que le Premier ministre avait clairement dit il y a encore 2 mois qu'il fallait conserver cette mission auprès de lui, auprès du Premier ministre, parce que l'interministérialité est absolument indispensable, ça touche à tous les domaines.
Comme lui, les associations, les victimes et certains parlementaires s'interrogent. Comment expliquer cette disparition annoncée de la Miviludes? L'argument économique est avancé. La Miviludes, c'est un budget de 500 000 euros par an. Une goutte d'eau pour le budget de l'État, selon Georges Fenech.
Il y a une autre motivation qui nous échappe. Nous pensons être sans doute la victime de réseaux d'influence occulte qui ont réussi à convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelques mouvements occultes qui doivent se réjouir de ce qui arrive, mais pas les victimes précisément.
Les forces occultes des sectes à l'origine de la disparition de la Miviludes, aucune preuve quant à cette affirmation. Une chose est sûre en revanche, c'est qu'il y a aujourd'hui en France 500 000 personnes victimes d'emprise sectaire, selon les chiffres des associations.
C'était Maïwenn Bordron. Lubrizol accepte d'indemniser les agriculteurs victimes de l'incendie de son usine à Rouen il y a 2 semaines. Il s'agit dans un premier temps de 453 éleveurs présents dans 6 départements différents qui ont été touchés par l'interdiction préfectorale de produire leur lait. Lubrizol a également consenti à créer un fonds de solidarité à hauteur de 50 millions d'euros. Cela servira également à aider d'autres professionnels comme les commerçants par exemple. Le mouvement écologiste Extinction Rébellion poursuit ses blocages dans Paris notamment. Après la place du Châtelet et le pont du Change, ils occupent depuis hier la rue de Rivoli, là aussi en plein centre de la capitale. Ces blocages durent depuis 5 jours au total et personne au sommet de l'État français ne réagit pour le moment. Aucun mot, aucun message de la part des pouvoirs publics. Cette indifférence agace et sidère même 2 militantes rencontrées par Véronique Rebérotte, Léa et Clarisse.
Il n'y a eu aucune réaction, il n'y a eu aucun engagement, il n'y a aucune promesse de mesure, absolument rien. Alors qu'il se passe ce qui se passe à Paris, mais là cette semaine il se passe quand même des actions comme ça partout dans le monde. Et voilà, on est assez frustrés et choqués qu'il n'y ait eu aucune réaction de leur part. Et en fait c'est même pas envers nous, c'est envers ces revendications-là. On ne le prend pas personnellement, c'est pas une non-réaction d'un mouvement particulier, c'est une ignorance de revendications qui sont communes à tout le monde et qui concernent absolument la planète, quoi, la Terre entière.
C'est un peu désespérant dans le sens où ça veut dire que le sujet est complètement ignoré en fait. On en est là. On parle de la 6e extinction de masse, on parle d'une probabilité forte d'effondrement, d'effondrement aussi de toute notre société thermo-industrielle. C'est pas rien en fait. Et le sujet est complètement ignoré. Et dans les revendications d'Extinction Rébellion, dire la vérité, on attend aussi qu'elle vienne des politiques. Et elle vient pas. Et dire la vérité, c'est aussi être honnête sur la situation et sur ce qui arrive dans les prochaines décennies. On nous laisse là quoi.
C'était 2 militantes rencontrées par Véronique Rebérotte, place du Châtelet à Paris. Le ciel sera gris ce vendredi sur le nord de la France métropolitaine, ensoleillé au sud de la Loire. Comptez ce matin 14 degrés à Lille et Paris, 15 à Rennes et Strasbourg, 17 à Bordeaux, 21 à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
C'est l'heure du journal des idées à 6h40 sur France Culture. Et Jacques, la 29e édition du Salon de la Revue se tient ce week-end à Paris. France Culture est partenaire. L'occasion pour vous d'arpenter un véritable continent.
Oui, il y a près de 3000 revues francophones, la plupart françaises. Et elles contribuent au rayonnement de notre langue. Les pages débats et controverses de l'humanité évoquent la dernière enquête PISA qui fait état d'un recul du français, aussi bien dans sa maîtrise à l'école que dans son rayonnement international. La linguiste Karine Welchi estime que l'idée de décadence est une vieille rengaine et elle cite ses propos. La langue française, si belle, va se corrompant, ou encore notre langue est mise en péril par l'homme de la rue, par les gens du monde, par des bacheliers, par les journalistes et par les politiciens. Des propos respectivement tenus en 1898 et en 1927. Robert Delors, enseignant de lettres classiques, confirme une baisse inquiétante du niveau de maîtrise de la langue, tant du point de vue du vocabulaire que de l'orthographe ou de la syntaxe. Et il rappelle qu'en 40 ans, les élèves ont perdu, du primaire au collège, près de 600 heures d'enseignement du français, l'équivalent de 3 années de collège sans français. Quant au rayonnement de notre langue, Frédéric Penel, auteur d'un ouvrage sur la guerre des langues, souligne qu'avec 300 millions de locuteurs, le français n'a jamais été autant parlé dans le monde, même si il a reculé en Europe. Ailleurs, il progresse, comme le montre l'exemple du Maroc, qui est en train d'en faire une langue d'enseignement pour les matières scientifiques. Et c'est en Afrique que se réinvente le lexique français. Ajoute-t-il, là-bas, on parle d'essencerie, d'alphabet, de taxieur. Dans un souci de brièveté, les Africains transforment les périphrases en verbes du premier groupe, siester, confiturer, gréver. Le site d'entrevue, l'association qui organise le Salon de la Revue, recense 197 revues de linguistique, des plus généralistes aux plus spécialisées. La dernière livraison de la revue Mots, les langages du politique, est consacrée au nom des partis politiques, enjeu sémantique mais aussi stratégique. Le baptême d'un parti est un acte de langage. En tant que nom propre collectif, il est un vecteur d'identification pour ses membres, mais aussi un signal diffusé dans l'ensemble du corps électoral. Julien Fretel étudie l'onomastique particulière du parti présidentiel, directement inspiré du marketing et pensé au-delà des clivages partisans comme une marque politique capable de modifier la donne électorale. De la forme injonctive d'En Marche avec son point d'exclamation, aux initiales qui sont aussi celles de son fondateur, tout indique une volonté de conquête du pouvoir qui, au fond, ne dit pas son nom. En Turquie, où la loi sur les partis politiques est très contraignante et interdit toute référence à une minorité, le choix du nom pour les partis kurdes relève de la gymnastique acrobatique. Comme le montre Salih Akin, le mot « démocratique » présent dans la majorité d'entre eux suggère qu'une vraie démocratie pourrait résoudre la question kurde. Le choix du sigle peut être l'occasion d'un détournement dévoilant. Ainsi, le KADEP, parti de la démocratie participative, fondé en 2006, se prononce en turc comme le KDP, l'ancien parti démocratique du Kurdistan, fondé en 1946 dans l'éphémère République kurde de Mahabad en Iran. La revue Communications et langage au singulier, et langage au pluriel célèbre son numéro 200 sous la forme d'un lexique qui renvoie au fonctionnement, au contenu et à l'édition en termes de ligne éditoriale ou de graphisme de cette publication née en 1962. En forme de retour critique sur soi, chacune des entrées aborde un aspect de la vie de cette revue, de la formation du comité éditorial au choix de la couverture ou à celui des titres des articles. Accrocher le regard, dire l'essentiel en un coup d'œil, donner envie de lire. Il y est aussi question du style et de l'écriture des articles. Oriane de Céligny rappelle que Roland Barthes dénonçait le soupçon porté sur le style dans la langue scientifique et qu'à vouloir soustraire la forme, on trouvait non pas un fond insignifié, mais une autre forme plus neutre et sans relief. À lire aussi l'article d'Emmanuel Souchier, le directeur de la revue, sur la gracile esperluette qui résiste à toutes les modes dans une variation infinie de typographie. La langue de l'Europe, c'est la traduction, disait Umberto Eco, et c'est un art que les revues se plaisent à pratiquer. L'un des nombreux débats organisés dans le cadre du Salon de la Revue ce week-end porte sur cette aventure infinie avec la revue de belles lettres et translittérature. Il sera sans doute aussi question de style au cours de l'échange sur la science et l'actualité avec la revue Zilzel, revue d'histoire et de sociologie des sciences et des techniques. 200 exposants et des centaines de titres. Le Salon de la Revue, c'est dès ce soir en nocturne à la Halle des Blancs-Manteaux, rue Vieille du Temple, dans le 4e arrondissement de Paris. Tout le programme à retrouver sur le site franceculture.fr et à la page du Journal des Idées. Vous écoutez France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier et bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les manifestations en Haïti ou la solitude des morts sans importance.
La solitude des morts sans importance, ce sont les mots du romancier et poète haïtien Lionel Trouillot qui signait il y a quelques jours une tribune dans le journal L'Humanité. Sans verser dans la théorie du complot, écrit-il, il y a quelque chose d'écœurant et d'inquiétant dans le silence de la communauté internationale sur la situation haïtienne. Alors, situation que je résume en quelques mots, des manifestations qui durent depuis plusieurs mois, des barrages qui paralysent tout, des pénuries d'électricité et d'eau, des malades qui meurent à la porte de l'hôpital, des écoles qui pour la plupart n'ont pas rouvert depuis septembre. Les Haïtiens demandent toujours la démission de leur président Jovenel Moïse, président corrompu et insaisissable dont le cortège ne fait toujours que passer, dont personne ne sait où il dort et dont le dernier discours fin septembre pour demander une trêve a été diffusé à 2h du matin. L'élection de Jovenel Moïse en 2017 avait été reconnue comme légitime par les pays alliés, notamment occidentaux. Pays aujourd'hui silencieux, dénonce Lionel Trouillot, qui ajoute « Est-ce parce que ceux, beaucoup moins nombreux, qui manifestent à Hong Kong sont des militants pro-démocratie et que ceux qui manifestent et se font tirer dessus en Haïti ne le sont pas ?» Bonjour Éric Sauret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, juriste, enseignant à Paris 8. Éric Sauret, je voulais vous faire réagir au propos de Lionel Trouillot. C'est vrai que c'est pas la démocratie que demandent les Haïtiens en ce moment. Et pour cause, le système politique en Haïti est déjà reconnu comme une démocratie, reconnue comme telle depuis au moins la fin du régime des Duvalier, père et fils.
Alors, j'enseigne à Paris 13.
Hein. À Paris 13, veuillez m'excuser.
Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, plusieurs choses. Il n'y a pas de mort sans importance. Hein. Tout individu, tout être humain qui décède ou qui est tué pour des raisons politiques, participant de notre humanité, touche tout le monde. Et je pense que il est difficile de dire que la communauté internationale, en tout cas comme nous sommes en France, que les citoyens français sont indifférents à cela. En revanche, c'est vrai, il y a une situation difficile où il n'y a pas encore eu, je dirais, de vainqueur dans une bataille politique qui est très rude, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a l'impression qu'il y a un silence qui est lourd et pesant, on le comprend bien, mais en même temps, il y a un problème d'ingérence et il faut en tenir compte.
Alors là, Éric Sauret, vous avez évoqué plein de sujets à la fois, donc on va les prendre les uns après les autres. D'abord, sur la question de la démocratie, revenir un peu sur le système politique en Haïti. Depuis la fin du régime des Baby Doc et Papa Doc, les Duvalier père et fils, oui. On est dans un régime qui est censé être démocratique, reconnu comme tel par la communauté internationale.
On a un régime mixte parlementaire. En Haïti, on a tout un arsenal des droits de l'homme. Effectivement, c'est une démocratie. Et la bataille en cours n'est pas une bataille pour la démocratie, parce que depuis, on peut remonter plus loin, c'est-à-dire que depuis 1801, en Haïti, on a des constitutions, on a des droits de l'homme. Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'application des règles. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la capacité des chefs à être à la hauteur des espérances des citoyens haïtiens. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, eh bien, la question qui se pose, c'est plutôt une demande de justice de la part des citoyens haïtiens, une demande de justice sociale, une demande de réduction des inégalités dans la société. Comme toutes ces demandes sont confrontées soit à un refus du pouvoir, soit à une incompétence, soit à des obstructions claires de la part soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir judiciaire qui est dépassé, à ce moment-là, on a le sentiment qu'effectivement, que rien n'est possible, d'où cet appel qui a été lancé par des écrivains de renom qui sont très respectés. Et si l'appel a été rédigé en français, tout à l'heure j'ai entendu ce qu'il disait
Jacques Meunier.
Tout à fait, c'est entre autres pour rappeler qu'il s'agit d'un pays francophone et que ces écrivains-là, qui ont été pour la plupart formés en France, poursuivent le combat de la francophonie en Haïti, et c'est sans doute ce qu'il voulait nous dire dans cet appel.
Alors, Éric Sauret, Jovenel Moïse, le président haïtien, a été élu en 2017 avec, 20% de participation, c'est ça, à peu près. Donc, on sent que c'est quand même une démocratie qui fonctionne comme elle peut. Il a toujours pas réussi depuis plusieurs... Ça fait 7 mois maintenant, je crois qu'il n'y a pas de premier ministre, donc le pays n'a plus de gouvernement légitime pour l'instant. Tout a vraiment commencé, il faut le rappeler, cette manifestation populaire, cette contestation populaire a commencé il y a déjà plus de 2 ans, quand, peu de temps après l'entrée en fonction de Jovenel Moïse, la Cour supérieure des comptes a publié un rapport sur la gestion calamiteuse d'un fonds d'aide que le Venezuela a octroyé à Haïti, c'était entre 2008 et 2016, le fonds Petrocaribe. Ça représente pour Haïti plus de 3 milliards de dollars. Donc le Venezuela l'a prêté remboursable sur 25 ans à 1% d'intérêt. Il y a eu un procès, le procès Petrocaribe. Qu'est-ce qu'on a appris lors de ce procès?
Alors, le procès n'a pas encore eu lieu.
Un rapport et une demande de procès.
Et deux rapports et une demande de procès qui est une demande, encore une fois, légitime. Le seul problème, c'est que vous avez un pays qui est habitué à la corruption. Et un des signataires de l'appel, Yannick Layens, a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « La petite corruption ». On pourrait parler de la grande corruption. Là, ce à quoi on a assisté, c'est une faillite totale de toutes les élites politiques, administratives, économiques et sociales d'Haïti, parce que on a eu des ministres, des premiers ministres, des directeurs généraux et des chefs d'entreprise qui ont dilapidé les fonds. Alors, c'est important parce que il s'agit à la fois de recettes de l'État haïtien grâce à un fonds avec un programme d'aide du Venezuela, mais ces fonds auraient dû être remboursés à un moment donné au Venezuela sur 25 ans. C'est-à-dire que en dilapidant ces fonds, eh bien, Haïti se retrouve avec une dette qu'elle sera dans l'incapacité de régler. Et c'est là où, encore une fois, c'est inacceptable. Mais on est malheureusement dans une constante de l'histoire d'Haïti, c'est-à-dire avec des dirigeants corrompus. Et quand le peuple a demandé des comptes, quand les Petrochallengers, qui sont des jeunes très connectés, très ouverts sur le monde, ont demandé des comptes, eh bien, le président a fait une sorte de blocage et les rapports ont révélé que, malheureusement, lui aussi, alors pas en tant que président, mais bien avant, comme il était autour du régime de M. Martelly, eh bien, lui aussi a pu toucher une partie des fonds.
Et notamment... En fait, Oui, notamment parce qu'il était directeur d'une entreprise qui fabrique des bananes et qui est décrite par les juges de la Cour supérieure des comptes comme au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Par exemple, elle a été engagée pour rénover une route, mais la route n'a jamais changé de physionomie sur un centimètre carré.
Et il va bénéficier d'une impunité, et c'est contre cette impunité que les citoyens haïtiens sont révoltés. La difficulté, on le voit, c'est que il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de centre, d'où les reproches qui sont faits aujourd'hui aux grands groupes.
Ce fonds Pétrocarré, pour donner un ou deux exemples, encore donnés par la Cour supérieure des comptes, il y avait par exemple 6 millions de dollars qui étaient affectés pour la construction d'un hôpital, 6 millions de dollars qui se sont envolés, le chantier est à l'arrêt depuis 3 ans, 15 millions de dollars pour un programme social en direction des mères de famille qui n'en ont jamais vu la couleur, et pendant ce temps en Haïti, il n'y a pas de traitement des déchets, près des deux tiers des habitants vivent sans service public ni en électricité, et un jour à l'Assemblée nationale, Éric Sauret, c'est Florence Aubenas qui le raconte dans un reportage pour Le Monde paru il y a déjà quelques mois, un sénateur avait en pleine session parlé de partage du butin. C'est ça, les élites en Haïti, c'est toujours...
C'est courant. Ce qui est inacceptable, parce que vous l'avez dit, il y a une demande d'État, c'est-à-dire que l'État remplisse ses missions régaliennes, que l'État puisse rendre des services publics aux citoyens, il n'y a pas cela. Donc il y a un désespoir total dans la société haïtienne, il y a une exaspération sociale, c'est la raison pour laquelle on est passé du champ politique au champ social, et ce qui fait que la lutte est d'autant plus dure, et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution à l'horizon, ce qui est dommage, parce que les écrivains, qui la plupart ont signé cet appel, eh bien, avaient signé un appel à peu près similaire en 2004. On se rend compte que 15 ans après, eh bien, nous sommes dans la répétition des mêmes choses. Et c'est la raison pour laquelle, si les citoyens français doivent être sensibles à la cause haïtienne, ce qu'on devrait demander aux élites d'Haïti, c'est que, pour une fois, il va falloir sans doute jouer le rôle de pont entre les plus pauvres et ceux qui participent de l'aisance d'Haïti, parce qu'il y en a quand même un peu.
Éric Sauret, quand les écrivains haïtiens dénoncent le silence de la communauté internationale, il va falloir trouver d'ailleurs un autre terme pour parler des pays alliés, mais le ferait-elle, s'immiscerait-elle dans les affaires d'Haïti, ne serait-elle pas taxée d'ingérence? Et d'ailleurs, c'est le cas déjà, puisque tout en ne disant rien aujourd'hui sur ces blocages, elle s'en mêle quand même. Qu'est-ce que c'est que ce corps groupe qui organise de temps en temps des réunions de médiation avec les dirigeants des partis politiques et des élus de l'opposition?
Alors, c'est un groupe informel qui représente, composé des ambassadeurs de la France, du Canada, du Brésil, des États-Unis, des représentants de l'Union européenne, représentants de, en tout cas, du secrétaire général de l'ONU. Donc c'est un groupe informel. C'est comme si chez nous, en France, on avait un groupe qui représenterait les États-Unis, la Chine, on va prendre les grandes puissances, et qui demanderait à chaque fois aux autorités françaises, eh bien, qu'est-ce que vous décidez, comment vous décidez, on va vous aider. Voilà, c'est pour aider Haïti, soi-disant, parce que ce sont des amis légitimes. Alors, ça pourrait être très bien, parce que parfois, il est difficile, c'est vrai, d'amener les citoyens haïtiens à discuter, à dialoguer. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la France et le Canada seraient pour un départ, tandis que les États-Unis et le Brésil ne le sont pas. Mais il faut que les citoyens haïtiens le comprennent bien. Aujourd'hui, au niveau international, le Brésil est systématiquement opposé aux positions de la France. Donc il faut qu'ils comprennent cette contradiction. Et c'est cette contradiction aussi qu'on doit retrouver dans la société haïtienne. Parce que quand vous avez toutes les composantes de la société, toutes les forces vives, comme on dit, l'Haïti de la nation, dans un camp à demander une même chose, et bien de l'autre côté, vous n'avez plus d'intermédiaire pour assurer le dialogue. Or là, on a besoin d'intermédiaires, et c'est la raison pour laquelle je considère que cette prise de position des intellectuels est importante, et que les intellectuels devraient sans doute jouer le rôle du pouvoir moral. L'opinion publique compte, et c'est ce qu'on attend.
Merci beaucoup Éric Sauret d'avoir été avec nous ce matin. On met les titres de vos ouvrages sur la page des enjeux internationaux. Et puis j'en profite pour remercier Marine Beccarelli qui m'a aidé à préparer l'émission cette semaine. Bonne journée Éric Sauret.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Nos défaites, un film de Jean-Gabriel Perriot.
C'est quoi la politique?
Des mensonges.
Grâce à un jeu de réinterprétation de films post-68 par des lycéens, Nos défaites interrogent notre rapport à la politique.
Je pense que je suis trop jeune pour être engagée à vraiment quelque chose.
Dans une année où ils se sont vus confrontés à Parcoursup et aux répressions policières de Mantes-la-Jolie, comment ces lycéens appréhendent-ils le monde dans lequel ils grandissent? Auraient-ils envie de le changer, de le détruire ou d'en construire un nouveau? Nos défaites. Actuellement au cinéma. Un film France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous et à Blois.
On entend que vous êtes à Blois, vous êtes au rendez-vous de l'histoire de Blois, comme le seront de nombreuses émissions de France Culture aujourd'hui. Et à ce sujet, Guillaume Erner, c'est votre humeur du jour, les cordonniers. Les cordonniers sont décidément les plus mal chaussés.
Eh ben oui, et c'est la même chose pour les rendez-vous de l'histoire de Blois. Personne ne raconte l'histoire de l'histoire des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et pourtant, une page d'histoire s'est tournée dans la principauté des rendez-vous de l'histoire de Blois, parce que oui, c'est une principauté, elle est dotée d'un souverain, lequel se nommait jusqu'ici Emmanuel Laurentin. Emmanuel Laurentin a fondé la principauté au premier millénaire après Lebrun, à un âge qu'on appelle celui de la TSF, tout sauf Ferrand. À l'époque, il n'y avait rien à Blois le week-end, pas de gilets jaunes, pas de magasins ouverts le dimanche, même pas d'Amazon. Les Laurentins s'ennuyaient ferme, ils vivaient chaque jour la même chose, ils vivaient dans un présent éternel. Alors le cadet des Laurentins, Emmanuel, décida d'inventer le passé. Il se dit que ce qui était fait n'était plus à faire et que chaque jour à 9h du matin, il raconterait ce qui s'était passé hier. Le nom de ce festival, Rendez-vous de l'Histoire de Blois, lui fut suggéré par un troquet appelé l'Histoire, où notre homme avait ses habitudes. Un jour, qu'Emmanuel Laurentin était passablement éméché, il entra dans cette taverne par effraction. Emmanuel rentra dans l'Histoire. C'était un 9 octobre, et pour commémorer cet événement, les villageois de Blois décidèrent de créer ce qu'ils nommèrent les Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Le Puy du Fou s'était déjà pris. Blois se donna les moyens de ses ambitions pour ce festival en construisant toutes sortes de choses, des églises, des châteaux, des magasins de souvenirs, bref, tout ce qui constitue le passé. À partir de ce moment-là, les hommes faisaient l'histoire, mais ils ignoraient l'histoire qu'ils faisaient. Seul Laurentin, lui, le savait. Le roi mena des guerres contre la tribu des Bernes et celle des barbares, les Laurent-Deutsch. Laurentin prit un grand chambellan, un chambellan nommé Boucheron, lequel raconta l'histoire mondiale de Blois. Oui, mais voilà, Blois est le pays du matin précoce et notre souverain Laurentin voulait conquérir le matin tardif. Voilà pourquoi il décida en septembre de conquérir un royaume nommé le 18h20 de France Culture. Il quitta le passé pour le temps du débat, lequel temps du débat est évidemment le présent, juste après la sieste de Laurentin. Depuis lors, c'est un nouveau roi qui suit le cours de l'histoire comme d'autres sont passés de régner à Albert. Blois est passé de Laurentin à Mauduit. Mauduit a changé l'hymne du royaume et les trompettes des jingles. Et si l'histoire ne repasse pas les plats, c'est désormais lui, Mauduit, qui les sert.